Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons du budget déposé hier à Québec. Les faits saillants sont les suivants. C'est un déficit record de 11 milliards qui est annoncé. Et il y a une série de mesures. Et pourquoi, soudainement, le déficit explose? Quelques facteurs, mais les plus importants, c'est-à-dire que le coût des conventions collectives, il faut ajouter un 3 milliards. Il faut ajouter également de nouvelles dépenses, et à peu près 2 milliards, et une perte de revenus et aussi un manque à gagner de sociétés d'État comme l'Auto-Québec ou encore Hydro-Québec. C'est en gros le portrait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces mesures qui ont été annoncées? D'abord, ça veut dire qu'on repousse l'atteinte du déficit zéro à 2029-2030. Premier constat. Le deuxième, ce qui est dit entre les lignes et ce qu'il faut décoder, c'est que le ministre des Finances, M. Girard, nous dit « Nous allons revoir tous les programmes, non seulement les programmes de dépenses, mais les programmes fiscaux. » Ça, ce que ça veut dire, et je sais qu'ils n'aiment pas le mot, mais il y a des coupures qui s'en viennent, et il y a des coupures qui sont déjà commencées, alors qu'on amène les CIS et les CIUS à pousser vers le retour à l'équilibre budgétaire parce qu'ils sont déficitaires, et ça donne des réductions de services. Puis on ne viendra pas me dire le contraire, là. Il y a des programmes qui vont peut-être disparaître, il y a des avantages fiscaux qui vont disparaître, il y a un ménage qui s'en vient. Le gouvernement de François Legault a profité des tiroirs pleins laissés par les libéraux à l'époque du ministre des Finances, Lightowl. Ils ont laissé beaucoup d'argent sur la table, ce qui a permis au gouvernement suivant, celui de la CAQ, de dépenser plus. Réduire les impôts, faire des chèques, c'était la période d'euphorie, puis en même temps, il y avait une croissance économique. Et on s'est retrouvé, bang, avec moins de revenus et plus de dépenses. Alors, premier constat qu'il faut faire, là, il y aura des coupures budgétaires. Et la personne qui va nous dire le contraire, moi, je la crois pas. Quand on parle d'optimiser, là, les nouveaux mots à la mode, on veut pas parler d'austérité, mais on veut maximiser, optimiser le monde, etc. Ça veut dire qu'on va couper en quelque part. Et peut-être qu'il faut le faire aussi. Parce que le nombre d'employés dans la machine publique ne cesse d'augmenter. Les dépenses augmentent. Et là, on va mettre plus d'argent en éducation, en santé, la DPJ. Puis c'est parfait, là. Il faut investir. Mais une des frustrations pour le citoyen, c'est d'entendre toutes ces sommes, ce déficit, et de dire, mais est-ce que je perçois la différence? Est-ce que j'ai accès à un médecin de famille? Est-ce que j'attends encore pour ce qui est d'une chirurgie? Et je persiste à dire qu'il y a à l'intérieur de la machine bureaucratique des obstacles, par exemple, vers, dans le domaine de la santé, l'envoi au privé de certaines activités. Des médecins qui m'écrivent qui ont une priorité opératoire par semaine, par deux semaines. Ils peuvent pas opérer leurs patients. Puis il y a des patients qui attendent. Puis on a des salles qui sont pas utilisées. Puis il y a une question de personnel, d'organisation du travail. Fait que, tu sais, on a beau me dire là, qu'on va mettre plus d'argent. OK, mais à quelle heure ça commence à apparaître? L'autre observation qu'il faut faire, quand on dit à l'Auto-Québec, à la Société des alcools, puis à Hydro-Québec, plus de cash, les amis, dans le coffre du gouvernement, ça va se traduire de quelle façon? Regardez les budgets, les projets d'investissement de Hydro-Québec, mais on peut s'attendre à ce que l'Auto-Québec pousse un peu vers des loteries, fasse des compressions, puis on peut s'attendre à ce que la Société des alcools augmente évidemment le coût. C'est un monopole. La SAQ n'a pas de compétition. Alors, ils peuvent nous charger ce qu'ils veulent. Et il est à parier qu'il y aura des augmentations de prix qui vont être au-delà de ce qu'on voit normalement dans, disons, le paysage habituel. L'autre chose, taxe sur les cigarettes, c'est un classique qui est repris dans ce budget-là. Mais il y a des éléments importants. D'abord, le dossier des voitures électriques. On va commencer par ça ce matin, là. Ça veut dire que c'est terminé en 2027. Vous n'aurez pas droit de subvention pour vous acheter un véhicule électrique. Et d'ici là, le montant de la subvention va baisser d'année en année. On considère que ce n'est plus nécessaire. Puis je rappelle qu'il y a une subvention québécoise, mais une subvention fédérale aussi. Il y a des critères sur la valeur du véhicule. Mais c'est quand même majeur, là. Quel sera l'impact? À court terme, je pense que les gens qui veulent un véhicule électrique vont se ruer parce que la subvention va finir par disparaître. Les concessionnaires pensent qu'une fois la subvention partie, les gens seront moins intéressés. Et ça arrive au moment où on a des chiffres concernant les fameux véhicules immatriculés au Québec qui sont de plus en plus gros. Et on le sait avec les études du professeur Pinault, ce sont ce qu'on appelle les VUS ou encore les véhicules qui ont de multiples fonctions, là, qui sont les plus populaires. On aime des voitures plus grosses pour toutes sortes de raisons. Et c'est pas parce que c'est électrique que c'est nécessairement mieux. Et ce qu'on voit, c'est que les fabricants délaissent les plus petits véhicules électriques. Il y en a, mais c'est clair qu'il y a une volonté là du consommateur de se tourner vers ce type de véhicule. Donc, c'est clair que le marché du véhicule électrique, ça va changer. L'autre chose qui est importante, finalement, les aînés qui sont invalides, qui étaient victimes d'injustice, et de voir le gouvernement du Québec qui s'est entêté de contester devant les tribunaux à répétition un jugement là, qui pénalisait les personnes âgées qui étaient invalides. Alors là, on a décidé, puis le ministre a dit « c'est la plus belle chose dans le budget », ce dont je suis le plus fier, là. Ça faisait des dizaines d'années que ça durait. Concrètement, ça veut dire que, pas cette année, mais l'an prochain, les personnes qui sont invalides de 65 ans et plus vont recevoir pas loin de 4 000 $ de plus par année. Ce qui est, en termes de justice sociale, là, un minimum. Alors ça, c'est une bonne chose. On va également enlever des crédits d'impôt pour des entreprises. Par exemple, puis là, ça peut paraître contradictoire, on dit aux gens de 60 ans et plus, puis 65 ans, voulez-vous rester sur le marché du travail? On a besoin de main-d'œuvre. Puis les gens disent, ouais, mais est-ce que j'ai un intérêt financier à rester dans l'univers du travail? Et là, on va enlever le crédit qui est accordé aux entreprises pour embaucher des gens de 60 ans, en disant, ils ont tellement besoin de main-d'œuvre qu'ils n'ont pas besoin d'un incitatif financier. Tout le monde vidéo va perdre des crédits. Tout ce qui concerne les technologies vont perdre en disant ils n'ont pas besoin de crédit pour embaucher. J'ai hâte de voir quel est l'impact pour Ubisoft parce que ce que Québec donne depuis le début, c'est l'équivalent des profits d'Ubisoft. C'est énorme comme contribution. Alors, je ne sais pas comment ça s'applique directement pour Ubisoft, mais ça va être intéressant de regarder ça. Et on peut dire en gros que ce sont les mesures qui concernent le plus les contribuables. Bon, les réactions étaient prévisibles. On reproche à Québec de ne pas parler assez d'habitation, de la crise du logement, de ne pas annoncer des mesures concrètes. On accuse, c'est le rôle de l'opposition, le gouvernement de mauvaise gestion. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le gouvernement Legault dépense. Même en période où les revenus sont moindres, il y a quand même pas mal d'argent de dépenser. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, puis je me rappelle le discours, c'était quoi à l'époque? C'était on va couper dans l'appareil de l'État, on va réduire les dépenses, régime minceur. C'était ça le discours. Et une fois au pouvoir, pas ça pantoute qui est arrivé, et après avoir surfé sur les surplus des libéraux, bien là, la caisse est vide. Puis là, whoop, on se ramasse avec un déficit. Puis whoop, on ne peut plus faire nécessairement ce qu'on voulait. Et Éric Girard, ministre des Finances, qui, je le rappelle, a été candidat conservateur, dégage l'image d'un banquier, c'est ce qu'il est, là, fondamentalement. Quelqu'un qui, normalement, gère très serré, tu t'attends, tu dis... Et je sais qu'ils haïssent le mot austérité, mais t'sais, on va appeler un chat, là, à un moment donné, ils vont finir par couper. Alors, il sera avec nous ce matin, Pierre-Yves sera là également, sujet des commissaires, on va parler du budget en masse. Je souligne qu'il y a un an se produisait ce drame à Amqui, alors qu'un individu au volant d'un camion a décidé de foncer, ça a coûté la vie à 3 personnes. 8 autres ont été blessés alors qu'ils étaient sur le trottoir le long du boulevard Saint-Benoît à Amqui. Quelqu'un qui avait visiblement des problèmes de santé mentale. Puis rappelez-vous du contexte, c'est arrivé après que le chauffeur d'autobus, quelques semaines après, donc que le chauffeur d'autobus ait foncé dans la garderie à Laval. Ça faisait coup sur coup 2 drames terribles. Et on est encore pris dans les procédures. Et c'est vrai que c'est long, là. Hier, on parlait avec le père d'une victime de l'incendie dans le Vieux-Montréal. On n'a pas de réponse. Pourquoi? Est-ce que l'immeuble était conforme ou pas? Puis là, il faut attendre l'enquête policière, personne d'accusé, les délais. Dans le cas de Laval, ça finit pas. Tu dis, non, il arrive quoi? C'est bien compliqué pour un événement où ça paraît clair, mais peut-être que la preuve est dure à accumuler. Alors donc, ça fait déjà 1 an, le drame d'Amqui. Je vais revenir aussi ce matin sur la violence sexuelle sur les enfants, de l'exploitation sexuelle en ligne. Donc, des pédophiles qui sont sur le web ou des consommateurs d'images d'ados, d'enfants. Et avec notamment cette opération qui est menée à la police de Sainte-Thérèse, en fait, c'est dans une école secondaire, là, où on a découvert des images truquées. Donc, des montages avec la technologie, c'est facile, où on prend, par exemple, des visages d'adolescentes, là, d'étudiantes, puis qu'on va coller sur des corps nus. C'est pas leur corps, mais c'est leur visage. Et c'est présenté comme étant les jeunes filles en question. Et ça circule. Et c'est pris, je dirais, du côté des jeunes, comme une farce. T'sais. C'est une joke. C'est banal. Alors que c'est quand même sérieux, parce que ces images-là qui circulent disparaissent jamais. Et on le sait, là, avec tout ce qu'on a vu comme matériel porno qui se retrouve sur le web, qui implique des mineurs, du leurre ou carrément des agressions. Et on a eu le rapport hier de Statistique Canada, qui montre vraiment une explosion du nombre de cas d'exploitation donc sexuelle sur le web. Les chiffres, là, c'est pour la période de 2014 à 2022. C'est une augmentation de 200%. Là, je le sais, on va dire, ouais, mais peut-être c'est parce qu'il y a plus de plaintes, il y a plus de gens conscients, il y a plus de dénonciations. Mais c'est une augmentation considérable. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de consommateurs, des gens pour qui c'est banal en disant ce ne sont que des photos, alors que dans l'environnement de ces photos, ce sont des vraies victimes. Il y a toujours une tendance à vouloir minimiser l'affaire. Et pour vous donner, puis je ne veux pas vous inonder de chiffres, là, mais le taux est passé de cas d'infraction sexuelle contre des enfants de 50 pour 100 000 enfants en 2014 à 160 en 2022. C'est énorme. Je vais en parler avec René Morin du Centre canadien de protection de l'enfance. Il y a un seul message dans ça. On peut pas empêcher les jeunes d'être sur le web. Puis la pandémie a pas aidé. Mais les adultes autour, les parents, doivent établir une forme de dialogue, établir un lien de confiance. Parce que quand ça dérape, quand il y a du leurre, et que le jeune se sent seul, puis n'ose pas le dire, ben, c'est là que ça se détériore. Et je vous jure, là, il y en a plein. Il y a des jeunes qui vont leurrer, des plus jeunes encore. Il y a des vieux mononcles qui sont là, puis il y a des jeunes gars. Il n'y a pas de catégorie d'âge. Il y a des prédateurs. Et c'est facile, avec des faux profils, de pouvoir recruter comme ça. Donc, on va y revenir aussi plus tard ce matin. Dans les autres nouvelles, il y a ce scandale qui colle aux libéraux, qui est la fameuse application ArriveCan. Quand on débarque de l'avion et que ça avait été créé pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a découvert? Une firme qui ramasse à peu près les contrats. Ça devait coûter quelques dizaines de milliers de dollars. Ça a coûté des millions. Et c'est le genre de firme qui ne fait que prendre le contrat et trouve des gens pour l'exécuter et se remplit les poches. Il y a une dizaine d'enquêtes actives qui visent ce scandale. Et c'est un scandale qui touche le gouvernement puis des hauts fonctionnaires dans la machine et tout ce qui concerne également le programme d'aide aux communautés autochtones. Autre débat assez intéressant, c'est en Alberta. Il y a une jeune fille de 27 ans qui a demandé l'aide médicale à mourir. Puis c'est un long processus, ça a été refusé, ça a été accepté. Et son père a décidé d'aller devant la cour en disant « elle n'est pas apte à prendre une décision ». Donc, elle a 27 ans, elle est autiste, mais selon les médecins, elle est quand même capable de prendre une décision. Son père prétend qu'elle souffre d'une maladie mentale beaucoup plus sérieuse, qu'elle a beaucoup de problèmes et que son consentement n'est pas libre et éclairé. Et ils vivent sous le même toit, vous imaginez? Puis là, le père est allé en cour en disant « il faut arrêter ça, il faut mettre des balises, même si les médecins disent que physiquement, elle a raison de demander l'aide médicale à mourir, elle est éligible ». La cause va être entendue quand même un peu plus tard. Et puis, ce matin sur la scène internationale, ben, d'abord, on va revenir sur l'affaire Boeing. C'est assez nébuleux entre vous et moi, là. Un, je vous parlais hier matin des audits, les vérifications qui ont été faites après que ce panneau, là, cette fausse porte, se soit détachée dans l'avion Boeing. Là, on a découvert qu'il y avait des manques importants, des erreurs dans tout ce qui concerne l'entretien. Et on apprend aussi que ce vol d'Alaska Airlines, la veille de l'incident, il y a des techs qui avaient découvert des signaux lumineux et qui avaient dit « ça prend absolument un examen de l'appareil ». Puis la compagnie a dit « non, non, l'appareil est déjà programmé, il y a 3 liaisons à faire, puis après ça, on fera des travaux ». Est arrivé ce qui est arrivé. Et donc, on a découvert qu'il y avait des problèmes assez sérieux. Et il y a un gars qui s'appelle John Barnett, qui s'est suicidé au cours de la fin de semaine. C'est un lanceur d'alerte qui a travaillé chez Boeing pendant des années. Et il a mis en lumière des erreurs de design de l'appareil, des erreurs de fabrication et d'entretien. Et il a dit, Boeing a coupé, coupé, coupé dans les dépenses. Et ça paraît maintenant dans la façon dont on fabrique les avions et qu'on fait aussi l'entretien. Et soudainement, on l'a retrouvé sans vie. Puis on explique ça comme quelqu'un qui vivait énormément de pression. Haïti, c'est le chaos. Le Kenya a dit, on vous envoie personne tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un gouvernement. Et là, il y a des discussions de coulisses pour savoir qui sera à la tête de ce gouvernement provisoire et comment vont se comporter les gangs armés qui ont pris le contrôle de Port-au-Prince. Joe Biden et Donald Trump, c'est pas une surprise, là, décrochent l'investiture de leur parti. Les deux vont donc s'affronter pour l'élection présidentielle. C'était vraiment une formalité. Et puis, si je regarde rapidement ce qui se passe à Gaza, il y a un camion, en fait, plus qu'un, il y en a 6 camions qui ont réussi à entrer dans le territoire avec de la nourriture, avec des médicaments. Et ils ont pris une route différente. Israël a permis le passage de ces camions. Puis vous avez ce bateau qui est parti de Chypre, qui devrait arriver, là, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, avec de la nourriture. Mais Netanyahou affirme, maintient qu'il va continuer à ordonner des opérations militaires. Mais la famine s'installe de plus en plus. Et c'est pas 6 camions. C'est mieux que rien, mais c'est pas 6 camions qui vont faire véritablement la différence.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Donc, un déficit historique de 11 milliards pour le Québec. Déjà, la fin de certains programmes sont annoncés. Des investissements additionnels en santé et en éducation. Et Pierre-Yves a dit, c'est un peu comme si Québec nous disait, on a beaucoup dépensé, on va dépenser encore, mais le party est fini. Le ministre des Finances du Québec est avec nous, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais repasser avec vous certaines mesures que vous avez annoncées. Oui. Je vais commencer par les crédits dans tout le secteur de la technologie, crédit d'impôt. Là, on peut penser au monde du jeu vidéo, les entreprises en informatique. Pourquoi vous décidez de couper cette aide-là qui est accordée depuis des années?
Oui, bien, d'abord, ces crédits d'impôt-là ont été créés à une autre époque. Le taux de chômage était autour de 10 % et on voulait créer de nouvelles industries. Et le secteur des technologies a évolué. Aujourd'hui, les secteurs de pointe, c'est l'intelligence artificielle, la cybersécurité et un peu moins, par exemple, le jeu vidéo. Et tous les experts que nous consultons, parce qu'on fait pas ça en vase clos, là. On a fait une consultation publique des experts académiques puis du secteur privé. Tout le monde nous demande de réviser nos programmes, nos interventions en fonction des motivations, pourquoi ces interventions-là ont été créées et de leur efficacité. Alors, ce qu'on fait, c'est que sur 5 ans, on réduit d'à peu près 20 % de l'aide à 3 crédits d'impôt. Le crédit d'impôt affaires électroniques, le crédit d'impôt multimédia, qui est les jeux vidéo, et les effets visuels des productions cinématographiques. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va maintenir l'aide fiscale dans 5 ans au niveau où elle est aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la croissance et puis on demande à ces entreprises-là dans le fond, de contribuer à nos services publics en réduisant la dépense fiscale qui est associée à celle-ci.
OK. Vous n'avez pas peur que des entreprises comme Ubisoft, parce que l'aide gouvernementale, c'est l'équivalent des profits d'Ubisoft, là. Ubisoft fait pas de profit ou presque s'il n'y a pas cette aide-là. Vous n'avez pas peur qu'Ubisoft dise parfait, on va aller ailleurs, que CGI va dire, ben, on va s'installer dans d'autres pays. Autrement dit, qu'en réponse à cette baisse des crédits d'impôt, qu'il y ait des pertes d'emplois.
D'abord, moi, je ne commande pas les dossiers fiscaux des individus ou des entreprises individuelles, mais dans le cas des deux entreprises que vous avez nommées, on parle d'entreprises profitables qui paient des impôts et on a modulé les crédits d'impôt. Là. On les a améliorés dans le sens qu'on a enlevé les plafonds des salaires pour encourager les postes avec valeur ajoutée. Ce qu'on amène, c'est les premiers dollars gagnés sur lesquels il n'y a pas d'impôt qui est perçu, eux ne seront plus subventionnés. Et donc, puis l'autre point, c'est que comme présentement, il y a de la turbulence dans l'économie, puis il y a de la turbulence dans le secteur des technologies. Là, on n'est pas naïf, on sait que présentement, il y a des ajustements dans le secteur du jeu vidéo, notamment, puis dans les secteurs des technologies. Alors, ces mesures-là commencent après 2025. C'est pas immédiat. Là. On donne le temps, c'est graduel. Ce que je vous mentionne, dans le fond, c'est qu'on fait des ajustements sur 4 ans qui commencent dans 1 an et ça va maintenir le niveau d'aide au niveau actuel où il est. Ce qu'on empêche, c'est la croissance. Alors, je pense qu'on est allé chercher un compromis où on va continuer, notre aide va continuer d'être compétitive, mais en même temps, tout le monde reconnaît que le taux de chômage n'est plus à 10 % au Québec. Là. La situation a changé.
Dans le fond, vous avez déjà commencé à faire la révision des programmes, des crédits d'impôt, de la fiscalité.
Oui.
C'est commencé.
Vous avez raison.
OK. On les mesures, quand vous dites les auto-électriques 2027, c'est fini, fait partie de ces révisions de programmes.
Oui, et parce que on a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, M. Arcan, moins 37,5 par rapport au niveau de 1990. On est à 60 % de notre objectif, puis on est en 2024. Alors là, ce qu'on dit, c'est que l'argent qui allait en subvention aux véhicules électriques va aller dans des actions qui vont avoir un impact. On optimise plus important sur la réduction de gaz à effet de serre. Et puis, il faut continuer à développer les bornes, le réseau électrique, parce que avoir une voiture électrique, il y avait l'enjeu du prix qui est moins présent présentement, mais il y a aussi l'enjeu des bornes de recharge, là. Il faut que ce soit aussi accessible faire Québec-Montréal en voiture électrique qu'en voiture à essence.
OK. Globalement, là, si on veut être très, très direct ce matin, vous êtes arrivé au pouvoir, les coffres étaient...
Vous êtes bon là-dedans. Vous.
Non, mais vous allez voir, vous allez voir.
Allons-y.
OK. Vous arrivez au pouvoir, les libéraux ont garni les coffres. Vous avez pu dépenser, on dit que les niveaux de dépenses ont été très élevés. Vous avez baissé les impôts. Là, vous arrivez, il n'y a plus une scène dans les coffres. Puis là, vous dites, parfait, on va commencer un peu... à faire des coupures. Je sais que vous n'aimez pas le mot là, optimiser, si vous voulez, là, mais vous allez réduire les dépenses ultimement dans certains programmes, c'est clair.
Mais là, vous parlez un peu comme un membre du Parti libéral. Là. C'est-à-dire qu'ils
ben,
nous ont
c'est-tu vrai ou c'est pas vrai?
Non, mais laissez-moi parler. Là. Ils nous ont donné des surplus en 2018-2019.
Ouais.
C'est vrai. Il y avait un surplus de 4 milliards. OK. Ils ont aussi laissé une note aux états financiers de la vérificatrice générale qui disait qu'on sous-estimait notre niveau de dette de 2,8% du PIB. On a réglé ça en 2021. Ensuite, oui, il y avait un surplus de 4 milliards en 18-19. Je le reconnais, je l'ai dit, mon prédécesseur a fait du bon travail du point de vue des finances publiques. Il m'a donné des finances publiques en ordre. Je donnerai des finances publiques en ordre à la ou le prochain ministre des Finances. Ça, c'est certain. Mais depuis 2018-2019, là, il y a eu une pandémie et un déficit de 10,7 milliards de dollars en 2021. Alors, quand on me dit, ben vous étiez en surplus en 18-19, oui.
Oui, mais vous avez baissé les impôts, c'est vrai?
Oui, ben oui, mais les impôts, M. Arcand, nous avons les individus les plus taxés en Amérique du Nord. Puis on a baissé les impôts pour 4,6 millions de citoyens. À quel moment? Quand les citoyens sont en difficulté parce que les taux d'intérêt ont augmenté de 5 % et que ça a un impact sur leur carte de crédit, leur prêt automobile, leur prêt hypothécaire. Les entreprises ont des enjeux au niveau des fonds de roulement à cause de la hausse des taux d'intérêt. Alors nous, on est venus avec une baisse d'impôts, puis c'est d'autant plus efficace, M. Arcand, que on est les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. Alors c'est certain que lorsque vous réduisez le fardeau fiscal, bien, ça a beaucoup d'impact.
Mais comment ça se fait d'abord que si on a tellement d'impact qu'on se retrouve avec un déficit de 11 milliards?
Bien, c'est parce
plus
que
élevé
enjeu,
que pendant la pandémie.
On n'a pas un enjeu de revenus. On a un enjeu de revenus qui est temporaire. Il y a eu des feux de forêt, il y a eu de la sécheresse, il n'y a pas d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec, puis on n'a pas eu d'exportation d'électricité. Ça, c'est temporaire.
Mais on ne le sait pas, vous ne le savez pas, je ne le sais pas.
Mais c'est-à-dire que nous, on a des données historiques, là, puis on a des
bassins. Oui, mais les changements climatiques font que ça change. On ne le sait pas nécessairement.
Oui, mais nos réservoirs sont dispersés sur le territoire, M. Arcand. On est diversifié. Ensuite, les revenus sont en baisse parce que l'impôt des sociétés est en baisse parce que l'économie est arrêtée en raison des hausses de taux d'intérêt. Alors, il y a un aspect temporaire au niveau des revenus qui va se résorber avec les baisses de taux. Là où on a un enjeu, puis vous m'avez demandé d'être direct puis d'être clair, là où on a un enjeu, c'est que notre niveau de dépenses à la sortie de la pandémie est trop élevé. Et donc, nécessairement, si notre niveau de dépenses est trop élevé, le taux de croissance futur des dépenses va devoir diminuer. C'est-à-dire que derrière nous, il y a un taux de croissance des dépenses de plus de 6 %, puis devant nous, il y a un taux de croissance des dépenses de 3 %. Et ça, pourquoi notre niveau de dépenses est élevé? Bien, c'est parce que la pandémie, elle a amené des dépenses que, durant la pandémie, on a qualifiées de temporaires, qui s'avèrent permanente. Par exemple, les centres de dépistage, c'était des mesures temporaires. Ça fait maintenant partie du réseau de la santé. Par exemple, les masques, les équipements, les vaccins, c'était des mesures d'urgence durant la pandémie. On aura toujours des équipements de protection en stock pour l'avenir. Et vous voyez, Moderna vient ici, on va produire des vaccins. Tout ça a des coûts permanent. Alors, notre niveau de dépense est trop élevé, d'où la nécessité d'optimiser l'action de l'État.
OK, mais quand vous me dites le niveau de dépense est trop élevé, vous êtes un banquier, vous avez été candidat conservateur. On se dit quelqu'un qui va contrôler... Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui va contrôler les finances...
C'était la discussion d'il y a deux semaines, mais continuez.
Non, mais on continue. C'est vrai, vous avez été candidat... T'sais, vous avez des valeurs conservatrices, hein?
Oui.
Bon, on se dit, il va arriver, il va nous annoncer des mesures. 60% des Québécois, dans un sondage, aimeraient ça voir une réduction des dépenses. Allez-vous le faire? Et si oui, de quelle ampleur?
Mais c'est déjà commencé.
Oui, mais c'est ça.
Il y avait 2,9 milliards d'actions dans le budget hier. On a un chapitre, section E, optimiser l'action de l'État. C'est commencé. On a commencé cet appel avec les crédits d'impôt dans le secteur de la technologie. Là, on a 200 milliards de dépenses au gouvernement par année. 70 milliards de dépenses fiscales, 130 milliards de dépenses budgétaires. J'annonce un examen complet de toutes ces dépenses. On va utiliser...
Et l'objectif, c'est quoi? C'est ça ma question. L'objectif c'est de réduire de combien?
L'objectif, c'est un engagement ferme au retour à l'équilibre budgétaire après contribution au fonds de génération au plus tard en 29-30. J'aimerais que ça se fasse avant. Du point de vue comptable, revenu moins dépenses, la même définition qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, on pourrait atteindre l'équilibre budgétaire aussitôt qu'en 2026-2027.
OK, mais... Alors, c'est pour réduire les dépenses. Moi, je veux savoir votre objectif. Là, quand on lance un exercice, on se dit, ma cible, c'est de réduire les dépenses de combien?
OK. Bien, le déficit structurel, celui qui demeure après... On dit qu'un déficit est structurel, c'est le déficit qui est présent lorsque l'économie reprend son plein potentiel. L'économie devrait se remettre en marche dans la deuxième moitié de l'année avec les baisses de taux et déjà en 2025 fonctionner à plein régime. Qu'est-ce qui reste après ça? Ce qu'on voit à l'horizon du cadre financier, c'est un déficit de 4 milliards. Alors, ce 4 milliards-là, il y en a une partie qui va venir si il va y avoir une amélioration qui est dépendante de notre capacité à pousser le potentiel économique du Québec. On a fait beaucoup de gestes depuis 2018. On est passé de 1,5 % de PIB potentiel à 1,7. Ensuite, il y a toute la question des transferts fédéraux. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est de respecter les champs de compétences du Québec, de ne pas créer de nouveaux programmes dans les champs de compétences du Québec, comme l'assurance médicaments et les soins dentaires, alors que les programmes existants, la santé, sont sous-financés.
Mais...
Et puis, puisque vous voulez faire un lien avec la discussion qu'on a eue il y a deux semaines, ben c'était d'ailleurs une clause de l'accord du Lac-Mégantic de M. Mulroney. Une pleine compensation financière lorsque le gouvernement fédéral intervient dans les champs de compétences des provinces.
M. Girard, vous avez annoncé hier des dépenses, mis à part les augmentations attribuables à la convention collective, aux conventions collectives, là, en santé et en éducation.
Oui.
La question fondamentale des auditeurs ce matin, puis ils sont plusieurs à m'écrire en me demandant de vous poser la question, à quelle heure on va sentir que ça paraît que vous mettez de l'argent sans arrêt en santé et en éducation? À quelle heure les listes d'attente vont baisser? À quelle heure m'a trouvé un médecin de famille?
Ça, c'est une excellente question. Puis hier, je me la suis fait poser par Patrice Roy, puis j'ai été un peu surpris. Là, j'ai mis un peu de pression sur mes collègues. Il faut que ça s'améliore rapidement, mais ça va se faire progressivement. C'est-à-dire que les améliorations, il n'y a pas de bing-bang. On se couche pas un soir, puis le lendemain, tout est parfait. Mais je peux vous dire que lorsqu'on rehausse les conditions de travail de nos employés, bien d'abord, on devient un employeur plus attrayant. On va manquer moins de personnel. Ensuite, on fait des gains au niveau de l'organisation du travail, comme la réduction de la main-d'œuvre indépendante. Ça va couper des coûts, comme les affectations plus tôt dans le cycle. Ensuite, il y a des améliorations au niveau des infrastructures. On a augmenté les infrastructures en éducation de plus de 100%. Au niveau de la gouvernance, la création de Santé Québec, l'Institut national d'excellence en éducation, au niveau des données probantes, parce que vous faites des blagues le matin, vous dites le ministre Dubé son tableau de bord, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en éducation, le ministre Drainville, il n'a pas ce tableau de bord-là. Il a besoin de données probantes pour prendre des bonnes décisions, pour que notre éducation publique s'améliore avec, justement, les conseils de l'Institut national d'excellence en éducation. Alors, on fait plusieurs choses. Les améliorations vont être graduelles et je comprends. Quand vous dites que c'est ça que les citoyens vous écrivent, ça veut dire que les priorités du budget santé et éducation sont les bonnes.
Oui, mais c'est parce qu'on attend de voir les résultats. T'sais, vous êtes un homme pragmatique, concret. Quand vous mettez 5 piastres, vous dites « OK, qu'est-ce que j'en retourne? » Puis vous voulez le voir, puis que ça soit réel. Là, on se dit « Ben, on ne sait pas, on nous promet bien des choses, mais on attend. »
Mais d'abord, il y a eu 3 virus qui circulaient dans le système de santé.
Non, mais il y aura toujours des virus dans le système de santé.
Oui, ben, il y aura toujours des virus.
Les urgences vont toujours déborder. Les urgences vont être... Les vieux sont de plus en plus vieux, malades, tu sais.
Ben, on est conscient de ça, mais je vous dis que lorsqu'il y a un problème complexe, là, ça fait de nombreuses années qu'on a des enjeux en santé.
Ouais.
On doit l'attaquer de plusieurs angles. Alors, il y a l'angle de la main-d'œuvre, il y a l'angle de l'organisation du travail, la gouvernance, les données probantes, les infrastructures. Et tout ça, le ministre Dubé est sur ça, puis il va y avoir, il y en a déjà,
okay,
mais il y aura des améliorations progressives.
J'ai 3 questions en terminant. La première, d'accord, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas d'argent additionnel pour l'habitation, pour le logement, parce que vous n'arrivez pas à dépenser tout ce que vous avez déjà prévu?
Non, il y a de l'argent pour une priorité en habitation qui a été identifiée par plusieurs groupes sociaux, municipalités, la ministre de l'Habitation, le fédéral, la rénovation des HLM. D'ailleurs, il y a un excellent article dans la presse aujourd'hui qui dit qu'on est en action puis qu'on fait une différence au niveau des HLM. Au niveau de la construction des logements, qui a à peu près 450 millions dans le budget. Au niveau, je pense que c'est 463 le chiffre exact.
Mais pourquoi l'opposition dit que ça ne semble pas une priorité, que vous mettez pas plus d'argent?
Parce que l'opposition, ils font leur travail, ils s'opposent. Puis dans le régime parlementaire britannique, une opposition, ben quand tu dis priorité santé, éducation, ça répond priorité habitation puis transport en commun. Là, c'est ça le système parlementaire britannique.
OK. L'autre question, là, c'est un défi. Peux-tu vous lancer un défi?
Allez-y.
Vous avez annoncé une aide pour la venue des Kings à Québec, les Kings de Los Angeles, de 5 à 7 millions, dans la révision des programmes puis des crédits. Vous avez là une opportunité de dire aux Québécois, j'annule ça, je récupère le 5 à 7 millions. De toute façon, il y a un paquet de villes qui ont reçu des clubs sans avoir à débourser un sou public. Êtes-vous prêt à relever ce défi-là puis dire, je récupère mes billes, puis c'est un signe que j'envoie qu'il faut revoir l'ensemble de nos dépenses?
Ben d'abord, je peux pas faire ça parce que j'ai signé un contrat. Puis un contrat, c'est un contrat.
Donc, regrettez-vous?
C'est comme lorsque les gens me disent, est-ce que l'argent en santé que le gouvernement fédéral est promis va être livré? Ben oui, le premier ministre Trudeau a fait une offre, le premier ministre Legault l'a accepté, c'est un contrat. Alors, le contrat est signé. Ce que je peux vous dire, c'est que les événements... Nous, on a un amphithéâtre qui a été construit avec des fonds publics. Il s'est rien passé pour avoir une équipe de la Ligue nationale. C'est rien passé dedans depuis 2017-2018. Et là, il va y avoir des activités. Je comprends. Moi, je comprends que les gens ne veulent pas qu'on mélange fonds publics et sport professionnel. Et croyez-moi, la leçon est entendue.
OK, mais avez-vous été étonné d'apprendre que nous sommes les seuls ou presque à subventionner la visite d'un club, que des villes comme Halifax, des villes au Missouri, au Kansas, ont pas payé une scène? Est-ce que vous aviez vérifié ça avant de faire le chèque?
Mais d'abord, si c'était si simple que ça, là, parce que c'est pas la même chose que les Kings prennent un vol d'avion, s'en aillent à Salt Lake City, jouent un match, reprennent l'avion, s'en vont coucher chez eux. Là,
ouais.
Là nous, ils s'en viennent ici, ils vont tenir des publics. Mais attendez, là. Okay, là, je vous parle qu'il va y avoir des événements, des pratiques publiques, on fait venir 2 gros clubs. Puis d'ailleurs, faut que je vous dise, je suis un peu surpris, là. Le budget du Québec, c'est 150 milliards récurrents. On a des investissements importants en santé et en éducation. Vous me parlez d'une dépense de 5 millions non récurrente.
On appelle ça...
Pour mettre du hockey professionnel dans un amphithéâtre qui a été construit pour ça.
Ouais, pour une affaire qui va durer une couple de jours. C'est pas le montant, c'est l'image que ça donne.
Bien, alors je vous dis que les enseignements, je les ai entendus, puis la prochaine fois s'il y a une équipe de la Ligue nationale qui revient à Québec, là,
ouais,
il n'y aura pas un dollar d'argent public là-dedans. Pourquoi? Parce que les citoyens ont déjà investi 400 millions, okay, qui en passant en vaut probablement 600 aujourd'hui, là, pour construire l'amphithéâtre.
En
les Québécois ont déjà donné.
Est-ce que j'ai compris, là, je suis pas sûr, là. Hier, vous avez comme laissé entendre que la prochaine ministre des... Vous avez parlé d'une femme comme ministre des Finances. Êtes-vous en train de nous dire que c'est votre dernier budget puis vous savez déjà qui va vous remplacer?
Non, parce que moi, j'ai toujours dit que j'allais remettre les finances publiques dans un excellent état, comme elles m'ont été remises. Et bref, il me reste du travail à faire. Mais lorsque j'ai voulu évoquer le fait que j'ai un jour j'allais remettre les finances publiques à quelqu'un d'autre, j'ai choisi le féminin parce qu'on est en 2024, puis en finance, il y a plein de femmes intelligente, performante, qui dirige des organisations, puis j'ai simplement évoqué la possibilité que le ou la prochaine ministre des Finances soit une femme.
M. Girard, merci d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir. Au revoir. Toujours une bonne discussion. Merci beaucoup.
Bonne journée. Éric Girard est le ministre des Finances du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Comment ce matin avec les cas d'exploitation sexuelle des enfants? On a vu les chiffres qui ont été rendus publics hier par Statistique Canada de façon globale entre 2024 et 2022. On parle d'une augmentation de plus de 200% du nombre de cas d'infractions sexuelles. Donc, ça peut être du leurre, ça peut être la production de matériel pornographique. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais il y a un cas très précis qui soulève l'attention ce matin. C'est ce qu'on appelle des trucages et de créer des faux nus. Deux invités pour en parler. Maître Joanie Saint-Pierre, qui est au DPCP, celle qui est la procureure coordonnatrice provinciale en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Maître Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour,
M. Arcan. Et Éric Huard, qui est à la police, la régie intermunicipale de police de Thérèse-de-Blainville. Monsieur Huard, bonjour.
Merci, bonjour.
Peut-être nous expliquer le cas là, qui touche une école secondaire dans votre coin.
Oui, tout d'abord, merci là, d'accorder du temps le lendemain de budget pour parler de la jeunesse. C'est qu'on s'est retrouvé début février avec un dossier d'enquête là, dans le cadre d'un protocole sexto, là, c'est-à-dire là, qu'on a l'information que dans un milieu scolaire, là, il y a eu des photos qui impliquaient des mineurs là, qui ont été partagées. Et là, rapidement, là, les patrouilleurs, les policiers qui sont déplacés, ils ont constaté que ça impliquait une quantité importante de personnes, mais surtout que ça impliquait le phénomène de l'hyper-trucage. Là. On emploie souvent là, dans les médias le phénomène de deepfake là, et que ça impliquait des faux nus. Et le premier constat qui a été fait dans ce dossier-là, c'était que les photos étaient particulièrement réalistes. On a vu le cas là, de la princesse Kate Middleton récemment, là, les photos sont à s'y méprendre avec la réalité et ça nous a particulièrement inquiétés et ça a demandé un travail colossal de la part du bureau des enquêtes.
Pourriez-vous définir pour nos auditeurs ce que c'est là, que ces trucages-là, c'est faux nu comme vous dites?
Exact. Le phénomène de l'hyper-trucage, là, c'est quand on utilise une application avec de l'intelligence artificielle pour créer un contenu ultra réaliste, une photo trompeuse de vous qui, puis là dans le cas présent, c'est à caractère sexuel, c'est-à-dire qu'on va utiliser, exemple, 8 photos réelles de vous dans différents contextes, des selfies, et l'application rapidement peut créer une photo qui va donner votre visage, qu'on verra pas la différence. Là, on parle pas d'un collage, on parle pas d'avoir découpé une photo de quelqu'un qu'on va apposer sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment une création complète qui donne l'apparence là, du contenu bien réel. Mais là, dans le cas présent, là, c'est vraiment la notion du caractère sexuel qui pose problème.
Dans le cas qui nous intéresse, est-ce qu'on parle d'une victime ou de plusieurs victimes?
On parle de plusieurs victimes. Là, on parle de plus d'une dizaine de personnes impliquées.
De jeunes filles.
De jeunes filles. Et on a dû procéder à des arrestations dans ce dossier-là. Et il y a eu un travail colossal qui a été fait du bureau des enquêtes, l'équipe de Martin Saint-Pierre, puis même de la prévention, parce qu'après, ça a impliqué d'autres choses, l'équipe de Karine Desaulniers. Mais c'est surtout que nous, c'est un prétexte parce qu'on a découvert un phénomène qu'on ne connaissait pas.
Mais je ne vous demanderai pas le détail, là, parce que là, vous venez de faire des arrestations, mais ce sont d'autres étudiants, d'autres élèves qui sont à l'origine de la production de ces images-là?
Exactement. C'est des élèves de l'école qui ont utilisé des photos. Et tu sais, dans le fond, comme je vous dis, moi, c'est un prétexte pour venir vous parler du phénomène de l'hyper-trucage, mais ça nous a préoccupés parce que là, on s'est retrouvé à mobiliser toutes nos ressources au bureau des enquêtes, la prévention aussi, pour venir parler du phénomène, enrayer ça. Et vous comprendrez qu'une fois que la photo, le contenu est créé, ça se partage rapidement, ça implique de rencontrer
mais
les parents.
Les ados là, qui sont arrêtés là pour ça, là, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait? Ils trouvent ça ordinaire, banal, c'est une farce, c'est quoi?
Ben, après coup, là, puis après toute la démarche qui a été faite, oui, il y a une compréhension de la part des adolescents, mais au départ, effectivement, il y a une banalisation, il y a un côté de se moquer, d'en rire, effectivement, mais faut rappeler aux gens que bien que ce soit du contenu créé à 100%, ben, si il y a une représentation d'un mineur et que la caractéristique dominante est à caractère sexuel, eh bien, ça s'apparente à de la pornographie juvénile. Je vais laisser Maître Saint-Pierre expliquer ce bout-là.
Oui, ben c'est ça. Là. À quel moment on parle de pornographie juvénile? Moi, j'ai vu des gens dire, ben non, je suis une adolescente, je suis un adolescent. Pourriez-vous me démêler ça un peu ce matin?
Donc, ben oui, bien sûr, la pornographie juvénile, c'est une définition qui est quand même très, très large. On pense naturellement que ce sont des fichiers qu'on va trouver sur Internet de gens qu'on connaît peu ou qu'on connaît pas. Vous le savez, M. Arcan, derrière chaque photo, il y a un enfant qui est abusé. Maintenant, tout type de matériel peut constituer de la pornographie juvénile. Donc, l'hypertrucage en fait partie. Ça pourrait être des dessins, des animés, des poupées. Dès qu'on a une représentation, donc photographique ou autre, où figure une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou qu'on présente comme telle, donc qui donne l'impression que la personne a de moins de 18 ans, se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite, ça peut en faire partie. Si la caractéristique dominante, c'est la représentation dans un but sexuel. On s'entend que dans un but sexuel, à partir du moment où on voit les seins nus, par exemple, d'un enfant, ben le but sexuel devient assez évident pour une personne raisonnable. Donc, si on démontre ses organes sexuels ou sa région anale, par exemple, et que cette personne-là a moins de 18 ans, ça fait partie de la pornographie juvénile aussi. Et finalement, si l'image préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne qui a moins de 18 ans et que ça constitue une infraction au sens de la loi, donc c'est aussi de la pornographie juvénile. Alors, c'est une définition qui est très, très large. Donc, par définition, ce dont on parle ce matin, si on a la représentation d'une personne mineure nue, ben nécessairement, ça rentre dans cette définition-là. Et la personne qui crée, qui possède, qui accède ou qui distribue ce matériel-là est susceptible de faire face à une enquête criminelle, à des accusations criminelles, à devoir aller devant le juge et éventuellement, potentiellement, avoir une sentence. Donc, c'est super important de sensibiliser les gens là-dessus, de sensibiliser les parents à en parler avec leurs enfants. Parce que par moment, je pense que comme parents, on a souvent la pensée magique de se dire ben, « mon enfant ne fera pas ça, c'est sûr que mon enfant... aura pas ce réflexe-là, il sait que c'est pas correct, mais non, c'est pas vrai. Les adolescents pensent des fois pas, parce que c'est impulsif, parce que des fois, on mesure pas la conséquence que ça peut avoir chez les victimes, mais ça a toujours des conséquences chez ces victimes-là. Faut se rappeler que c'est jamais la faute de la personne qui apparaît sur l'image, c'est toujours la responsabilité de celui ou celle qui a créé le matériel, qui l'a distribué par la suite et qui le possède. Et ça a des conséquences dévastatrices chez les victimes. Parce que ce matériel-là, une fois qu'il est sur Internet, ça devient très difficile d'en stopper la dissémination.
Bon, mais c'est là-dessus que je veux aussi vous entendre. Parce que dans une école, on produise du matériel, on se dit, bon, ben la police a arrêté les producteurs, les victimes vont être rassurées. Mais ces images-là, une fois partagées, ça tombe dans l'univers du web, puis ça disparaît jamais.
C'est exact pour les forces policières.
Maître Saint-Pierre, oui.
Oui, c'est très difficile, effectivement, de stopper la diffusion de matériel de cette nature-là. À chaque seconde où du matériel qui correspond à la pornographie juvénile est stocké sur Internet, ça rend son potentiel de dissémination exponentiel et la possibilité de stopper cette dissémination-là presque impossible.
OK. J'aimerais poser une question. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, là, mais la plainte, est-ce que c'est une victime qui est allée voir la police, les parents de cette victime-là? Comment c'est arrivé?
Bien, au départ, là, c'est les jeunes impliqués. Là, par la force du monde, les jeunes se sont parlé, que les photos circulaient, puis ils sont rendus voir un adulte responsable des écoles. Vous savez, le personnel scolaire est formé pour ce genre de situation-là. On collabore avec
eux. Donc, la dénonciation est passée par l'école.
Exactement. Puis, on a une collaboration à 100%. Puis, ce milieu scolaire-là veut sensibiliser les jeunes. Les services de police, à partout au Québec, font de la sensibilisation à ce sens-là. Mais c'est ça, la question aujourd'hui, c'est... Là, on a appris à nos enfants à traverser la rue de façon sécuritaire, à dire la vérité. Il faut amener la prochaine génération de citoyens à être sur le plan numérique, à être conscientisés. C'est sérieux, ces problèmes-là. C'est l'impact de ces victimes, il est bien réel. Puis il faut briser les tabous que, pour les parents, mon enfant fera pas ça. C'est pas vrai.
OK. Maître Saint-Pierre, vous en avez piloté des dossiers, vous en avez vu des cas. Les dénonciations, là, passe beaucoup par des adultes. Là, on parle de l'école, mais ça peut être un parent, ça peut être un proche. Il faut que les kids aient un lien de confiance avec des adultes.
Totalement. C'est super important. Puis c'est important comme parent, comme adulte responsable qui a un enfant autour de lui, qui reçoit une dénonciation comme celle-là, de supporter l'enfant. C'est jamais la responsabilité de l'enfant. Dans certains cas, quand ça arrive dans un contexte de l'heure, par exemple, faut comprendre que l'enfant a été manipulé pour arriver à créer ce matériel-là et à le transmettre à quelqu'un d'autre par la suite. Parfois, on va le voir dans le cas d'un stratagème amoureux. Donc, l'enfant peut être tombé amoureux de la personne avec qui il communique. Donc, faut être super conscient que ces enfants-là, à partir du moment où ils ont le courage d'aller voir un adulte puis dire « Hey, je pense qu'il m'arrive quelque chose de pas le fun. J'ai des photos de moi nues qui se promènent sur Internet. » C'est de l'écoute, de l'ouverture, de l'accompagnement, de l'empathie qu'il faut montrer à cet enfant-là, mais jamais du jugement. Parce que déjà, cet enfant-là se sent coupable, se sent responsable, puis a l'impression qu'il a fait quelque chose de pas correct. Donc, il faut défaire cette impression-là et leur rappeler à ces enfants-là qu'il y en a de l'aide. cyberaide.ca, le site Aidez-moi, s'il vous plaît, peut les aider aussi. Le site du Centre canadien de protection de l'enfance, Tel jeune, ce sont toutes des belles ressources, autant pour les parents, pour aller voir, pour aller consulter, pour savoir comment aborder les sujets avec l'enfant, que pour l'enfant qui voudrait dénoncer lui-même qui est en train de vivre.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Joanie Saint-Pierre, qui est au DPCP. Elle coordonne pour le Québec tous les cas en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Monsieur Huard, merci d'être venu ce matin de la Régie intermunicipale de police de Sainte-Thérèse-de-Blainville. Maintenant, on va parler de ce qui est convenu d'appeler l'affaire Boeing. On se souvient tous donc de cet appareil qui, en plein vol, a vu ce panneau se détacher. C'était la section d'un hublot. Et ça a créé, avec raison, une panique. Il y a eu enquête et ça se poursuit. Et là, on découvre, c'est le New York Times qui l'a rapporté, que sur 89 vérifications, il y en a 33 des vérifications, entre autres, de la Fédération de l'aviation civile aux États-Unis, que donc il y avait des problèmes d'entretien, des problèmes assez sérieux. En résumé, on parle pratiquement de négligence de la part de Boeing. Des exemples, je peux vous en donner un là, utiliser du savon, de l'eau savonneuse pour voir si c'est étanche ou pas. Alors là, c'est pas une pratique ben ben recommandée. Et on apprend également ce matin que cet appareil de Alaska Airlines, il y avait eu des ennuis, des signaux lumineux, puis on avait dit ben il faut peut-être aller faire des vérifs. Puis finalement, le transporteur a dit non, on va continuer, il y a trois autres destinations à faire, puis après ça, on verra. J'en parle avec Jean Lapointe qui, lors d'une autre intervention avec nous, parlait des enjeux de sécurité chez Boeing. Il est expert en aviation civile et pilote retraité. Monsieur Lapointe, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Qu'est-ce que vous comprenez d'abord de ces rapports, ces audits qui ont été faits, là, ces rapports de vérification sur, justement, l'entretien, la construction, la maintenance là, de ces appareils de Boeing?
Bien, moi, je pense que cet article du New York Times qui est paru lundi dernier confirme effectivement ce que nous présumions, qu'il y avait des problèmes importants, X, Y, Z, sur les différentes lignes de montage de Boeing. La dernière fois que nous nous sommes parlé en février, nous avions compris pourquoi cette porte s'était arrachée de la carlingue, c'est-à-dire qu'on avait oublié de remettre des boulons. Donc, l'Agence fédérale américaine, en envoyant plusieurs dizaines d'inspecteurs chez Boeing et chez Spirit, qui est un des plus gros fournisseurs de Boeing. On vient de comprendre pourquoi c'est arrivé, parce qu'il y a des manquements justement sur les différentes lignes de montage chez Boeing.
Quand je lis qu'on prend de l'eau savonneuse, quand on prend une carte magnétique là, pour voir si l'air passe ou pas, ou si c'est assez étanche, on a de la misère à se dire que Boeing a des pratiques comme celle-là.
Ben, et quand vous déviez des procédures qui sont approuvées dans les différents manuels d'opération pour accélérer votre cadence, c'est prouvé que lorsque vous déviez une fois, deux fois, vous allez dévier sur plusieurs autres points. Je dois vous rassurer, M. Arcan, que ces procédures-là, même si elles ne sont pas approuvées, elles sont faites tôt dans la ligne de montage et que l'avion sera pressurisé dans l'hangar avant d'être livré à la société aérienne dans laquelle il y aura un test en vol. Alors, ce sont des petits points, mais qui sont inacceptables chez une compagnie comme chez Boeing. Et je pense qu'avant l'achat ou la fusion avec McDonnell Douglas en 96, il n'y aurait pas eu ces 33 manquements-là, là, qu'ils soient importants ou pas, chez Boeing. Et ça démontre justement la baisse de qualité qui doit revenir comme elle était là, avant cette fusion-là, il y a longtemps.
Il y a un sonneur d'alerte qui a mis en évidence des lacunes. Il y a un procès qui était prévu au mois de juin. Il se disait menacé. On a appris qu'il s'était enlevé la vie en fin de semaine. Et c'était précisément le sens de sa sortie. C'est de dire, nous sommes négligents à la fois dans l'entretien et à la fois dans la fabrication des appareils.
Oui, ça c'est un triste événement. Écoutez, chaque société aérienne ou chaque avionneur a un système qui s'appelle le SMS, qui est un système de gestion de la sécurité interne et qui permet à chaque employé ou dans une société aérienne, à chaque pilote, de décrire des événements qui ne suivent pas les procédures qui permettent une sécurité maximale. Alors, ce travailleur-là qui a perdu la vie en fin de semaine travaillait sur la ligne de montage en Caroline du Sud, à Charleston, sur les Boeing 787. C'est quand même un monsieur qui avait 32 ans d'expérience et qui a eu le courage de dénoncer justement qu'on coupait les coins ronds à certaines étapes du montage de l'appareil. Faudra suivre ce qui en est, mais moi, j'ose espérer qu'il va y avoir d'autres employés qui vont dénoncer, parce que M. Calhoun, qui est le grand patron de Boeing, a dit qu'il allait maintenant écouter tous et chacun, justement, pour maximiser la sécurité. Mais c'est pas normal qu'au cours des dernières 20-25 ans, là, qu'on ait baissé la qualité que Boeing avait. Si on avait fait cette audit-là il y a 25 ans, on aurait probablement trouvé aucun problème là, sur la ligne de montage.
Mais vous l'aviez dit l'autre jour, ça arrive à un moment où on sait que les gens voyagent de plus en plus, le trafic aérien va augmenter, le nombre d'avions dans le ciel, puis c'est sûr qu'il y a des commandes, il y a une pression pour que les appareils soient livrés, mais ça peut pas se faire au détriment de la sécurité, là.
Non, vous avez 100% raison. Le fait que l'Agence fédérale américaine dit déjà à Boeing qu'elle ne pourra pas augmenter la cadence d'une 25 à 30 737 max par mois à plus, ça vient vraiment démontrer qu'on prend ça au sérieux. L'Agence fédérale américaine, ça appartient au gouvernement américain, qui, lui, est un des plus gros clients de Boeing. Écoutez, c'est pas seulement que des avions de ligne que bâtit Boeing. Là, on bâtit des avions militaires, des missiles de défense. Le gouvernement américain achète des pièces chez Boeing pour permettre la construction de satellites, etc., etc. C'est une très grosse compagnie, Boeing. Alors là, le gouvernement américain, cette fois-ci, fait des enquêtes très sérieuses et tape sur les doigts de son plus gros fournisseur quand même important sur le plan militaire. Alors, il y aura d'autres investigations qui vont être faites et je suis extrêmement heureux que celle-ci ressorte aujourd'hui, mais cet article du New York Times sort au bon moment, selon moi, pour démontrer qu'il y a beaucoup à faire pour revenir à la qualité. C'est pas 90 jours là où M. Calhoun dit on va revenir à ce qu'on s'en était avant. Je suis extrêmement sceptique sur la capacité de Boeing de redonner une qualité parfaite comme elle l'a déjà fait.
Je sais que vous avez parlé à des gens de l'industrie, d'anciens pilotes qui étaient chez Boeing, des gens au Bureau canadien de la sécurité. Qu'est-ce qu'ils vous disent en gros? Là, quelles sont les impressions?
Bien, mon collègue pilote qui a travaillé chez Boeing notait déjà au début des années 2000 qu'il y avait beaucoup de pression sur les ingénieurs, il y avait beaucoup de pression sur les pilotes qui faisaient des tests en vol pour accélérer les processus, ce qu'on a vu avec le 737 maintenant. Mes anciens collègues d'école à l'École nationale d'aéronautique qui ont travaillé au Bureau de la sécurité des transports au Canada ici confirment que ces audits-là devraient être plus fréquents. S'assurer justement que n'importe quel avionneur, que ce soit Bombardier, que ce soit Airbus, avec justement la pression dont vous parlez, qu'on doit livrer beaucoup plus de nouveaux appareils parce que les voyageurs vont continuer à augmenter de façon importante au cours des prochaines années, ben on se doit de faire beaucoup d'inspections parce que la sécurité doit primer. Alors, ces gens-là répondent qu'il faut garder un œil sur les différents fabricants.
Merci beaucoup, M. Lapointe. Bonne journée.
Au revoir, monsieur.
Au revoir. Jean Lapointe est expert en aviation civile et pilote retraité.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.